soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué. C'est la troisième soirée où nous y retournons. Nous poursuivrons encore la semaine prochaine, Josué chapitre 5. Nous sommes toujours dans cette série de rentrées que j'ai intitulée « Ce que ton pied foulera ». Nous avons parlé d'abord de la promesse que Dieu nous donne. Nous foulerons de nos pieds la terre de Canaan. Nous avons vu la semaine dernière qu'avant cela, il nous faut mouiller nos pieds dans les eaux du Jourdain. Et aujourd'hui, nous allons parler de mettre nos pieds à nu, les pieds nus. Nous sommes un peuple qui sort du désert. Nous sommes un sacerdoce royal, une église qui aime la présence de Dieu, qui place la présence de Dieu au cœur de son action, de son ministère, la parole. Une église qui s'appuie sur des serviteurs, des servantes que Dieu a placées. Par la grâce du Seigneur, nous sommes aussi une armée équipée des dons, des talents que Dieu nous donne. Nous sommes un camp de l'Éternel. Nous sortons du désert. Dieu a été fidèle. Le rocher n'a jamais cessé de nous abreuver. La parole de Dieu a été toujours là pour nous encourager. Et nous avons vu les miracles, la puissance de Dieu nous accompagner. Mais aujourd'hui, nous voulons être comme une armée qui sort du désert et qui s'approche du Jourdain. Et nous croyons que le Seigneur est celui qui a la puissance d'ouvrir ce fleuve et de nous amener bien au-delà dans les choses qu'il a promises pour son Église, dans les choses qu'il a promises pour chacun d'entre nous. Alors si tu dis « ma vie est comme un désert », même si je vois la fidélité de Dieu, sors du désert. La promesse de Dieu est pour toi. Alléluia. Lisons ensemble Josué chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Alors Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, roulés jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Et Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi, amen. La traversée du Jourdain venait une fois de plus témoigner de la puissance et de la fidélité de Dieu à l'égard d'Israël. Et tout Israël avait passé le Jourdain comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et maintenant, Israël foulait de ses pieds les plaines occidentales du Jourdain près de Jéricho. C'était déjà une victoire. Après tant d'attentes, de combats, d'épreuves, enfin la terre de Canaan. Cependant, devant eux se dressait la grande ville. C'est alors que Josué, confiant dans le Seigneur, mais ressentant le poids des décisions, lui, chef, au milieu de son peuple, quitta le camp et s'aventura vers Jéricho, qui était fermé, barricadé. Et là, peut-être comme un chef, commençait-il à réfléchir, à observer la topographie, les fortifications, les défenses, à concevoir une stratégie. Devait-il aussi se demander comment Dieu allait intervenir ce coup-ci? Mais quelles que furent ses pensées, tout cela fut interrompu par l'apparition d'un homme en armes devant lui. Josué était un guerrier, ce n'est pas un homme à fuir. Alors il s'approcha de lui, résolu, « Qui es-tu ?» Et l'homme lui répondit trois choses. D'abord, qui il était ? « Je suis le chef des armées de l'Éternel, et ça c'est une bonne nouvelle. » Deuxièmement, qu'il arrivait maintenant, et donc pas avant. Ce qui veut dire, nous allons voir qu'il y avait un timing, un agenda de Dieu, avant qu'il intervienne en vue du combat. Troisièmement, il apprend qu'il doit se déchausser car le lieu sur lequel il se tenait était saint. Pourtant, Canaan n'est-elle pas une terre d'idolâtrie ? Mais pourtant, Dieu la déclare sainte. Car quand Dieu arrive quelque part et qu'il dit « ce lieu m'appartient », ce lieu est saint. Il le sanctifie. Ainsi donc, avant de fouler plus loin la terre de Canaan de ses pieds, et encore plus de pouvoir poser le pied sur le cou de leurs ennemis, Josué et Israël devaient se déchausser devant le Dieu saint à Gilgal. Gilgal veut dire « rouler, nous allons y venir ». Et ce lieu de Gilgal, entre le Jourdain et Jéricho, était un lieu où Dieu donnait rendez-vous à Israël. Ils avaient franchi le Jourdain, mais avant d'arriver à Jéricho, il devait se passer quelque chose en ce lieu de Gilgal. Et c'est un lieu où Israël et Josué apprendraient plusieurs leçons importantes que nous allons voir un peu ce soir, des leçons qui concernent le temps de Dieu, la consécration, la foi, et tout ceci peut se résumer par cette idée, c'est que nul ne foulera davantage la terre de Canaan, nul ne mettra son pied sur le cou des ennemis si d'abord il ne s'est pas déchaussé devant Dieu. Ce soir, mon plan s'appuie sur les quatre tableaux qui s'enchaînent dans ce chapitre. Regardez, ça va vous aider à mieux comprendre ce chapitre. Tout d'abord, vous avez le premier verset qui est un peu long, et c'est le premier tableau à lui tout seul. Il nous rapporte la consternation et la terreur des rois de Canaan après la traversée miraculeuse du Jourdain. Ensuite, des versets 2 à 8, il est question de la circoncision des hommes de la nouvelle génération d'Israël. Versets 9 à 12, la célébration de la Pâque et la cessation de la manne. Et enfin, versets 13 à 15, le chef des armées de l'Éternel vient à la rencontre de Josué. Alors, ce soir, donc, le plan va suivre un peu l'enchaînement de ces tableaux et nous allons commencer par le tableau numéro 1, le verset 1er, que je pourrais intituler « Le temps de Dieu ». Le verset 1 nous dit donc, et c'est là aussi une bonne nouvelle, qu'après avoir vu comment Dieu avait ouvert le Jourdain devant Josué et Israël, les armées ennemies, les armées de Canaan qui les observaient, furent alors comme totalement démoralisées avant même d'avoir lancé le moindre combat. Elles étaient déjà résignées à subir leur destin. Alors des hommes de guerre pourraient dire « c'est le bon moment ». C'est le bon moment pour conduire une attaque. Le moral de l'ennemi est au plus bas. Allons-y, profitons-en. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des stratèges. Car Dieu n'est jamais pressé, il n'est jamais en retard, il n'est jamais pris de court, et surtout, Dieu a la liberté de prendre son temps. et de conduire les choses selon son planning. Car pour Dieu, il y a des priorités et des principes spirituels qui sont bien plus importants et fondamentaux pour la victoire qu'un bon timing pour lancer une attaque. Et c'est ainsi qu'au lieu d'ordonner à Josué de faire monter le peuple à l'assaut, Dieu lui commanda de demeurer à Gilgal. Gilgal veut donc dire « rouler ». Et ce fut non seulement le premier lieu de campement du peuple d'Israël en Canaan, mais ce lieu deviendra aussi pendant quelques temps, quelques années peut-être, le QG duquel les armées d'Israël menèrent leur attaque et leurs incursions dans le pays de Canaan et le lieu vers lequel ces armées revenaient après chaque victoire. Et là, dans ce lieu de Gilgal, Dieu leur demanda de faire quelque chose qui, humainement parlant et certainement militairement parlant, semblait totalement décalé pour une armée à la veille d'une bataille. Parce qu'il apparaît même que ces choses que Dieu exigeait mettaient le peuple, l'armée, dans une situation risquée, voire périlleuse, face aux ennemis qui sont là. Israël est sur le terrain de l'ennemi, et ils se mettent dans une situation difficile, parce que Dieu leur demande. Les guerres de Dieu sont spirituelles. Si nous espérons y participer et les remporter, il convient que nous agissions dans le temps de Dieu et selon les méthodes de Dieu. Et ce que Dieu demandait ce jour-là à Josué et à Israël dans les plaines de Gilgal, c'est d'accepter de se préparer selon le plan de Dieu. Et ce que Dieu demande à Gilgal, à Josué et Israël, il le demande à chacun d'entre nous. Nous pouvons voir le miracle de Dieu et passer le Jourdain parce que nous avons la foi. Et nous disons, Jéricho est à portée. Mais entre le Jourdain et Jéricho, il y a un rendez-vous incontournable, c'est celui de Gilgal. Une question. Êtes-vous de ceux qui avaient à cœur de vivre les promesses de Dieu dans votre vie? Avez-vous à cœur de conquérir votre Canaan? Êtes-vous prêt pour conquérir votre Canaan? À vrai dire, vous l'êtes si seulement Dieu vous a préparé, comme il le veut. Alors on va voir un peu ce que Dieu demanda à Israël de faire avant de l'engager dans les combats. Nous voyons ça au verset 2 à 7, c'est le deuxième tableau. Et il est question ici de la circoncision. Vous savez que depuis Abraham, la circoncision était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Or, nous apprenons là que durant les 40 années d'errance dans le désert, les hommes d'Israël, en tout cas la nouvelle génération d'hommes, n'avaient point été circoncis. Les 40 ans de désert, vous savez qu'il n'en est pas question dans la Bible ? C'est 40 années de silence. Vous ne trouvez aucun verset au sujet de ce qui s'est passé pendant ces 38 années. Vous regardez que dans le livre des Nombres, tout de suite, hop, on va passer d'un chapitre à un autre, on a fait un bond de 38 ans en avant. 38 ans pendant lesquels Dieu demeure fidèle à l'égard d'Israël. Tous les jours, la manne, l'eau, il veille sur Israël, il défend Israël, mais il n'engage plus de nouvelles relations avec Israël. Et c'est certainement à cause de cela que les hommes n'ont pas été circoncis. Les enfants. Mais maintenant, avant que ces hommes qui ont grandi ne se lancent à la conquête de Canaan, Dieu exigeait qu'ils soient circoncis. S'ils voulaient la bénédiction de Dieu, s'ils voulaient la garantie de la victoire, l'alliance devait être renouvelée avec cette génération. Nous concernant, la leçon est simple. Tout comme Dieu demanda aux hommes d'Israël de retrancher de leur corps une partie de leur chair comme signe d'alliance, Dieu nous appelle à un véritable acte spirituel et moral de circoncision. Non pas simplement les messieurs, mais chacun d'entre nous. Et cet acte de circoncision spirituelle et morale est lié à notre baptême. C'est ce que Paul enseigne dans Colossiens 2, versets 11 à 12. Si vous le lisez, je vous redonne la référence, Colossiens 2, 11 à 12. Où il est écrit, c'est en lui, en Jésus, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. » Il y a donc un lien entre le baptême et la circoncision en Jésus-Christ. Le passage du Jourdain est une image du baptême, un type, on dit, du baptême. Le baptême qui est l'acte d'alliance entre Dieu et l'homme nouveau en Jésus. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce point, mais je vous laisse y réfléchir un petit peu. Mes frères et sœurs, mes amis, votre baptême possède-t-il les caractéristiques du passage de la mer Rouge et du Jourdain ? Qu'est-ce que je veux dire ? Beaucoup de chrétiens ne franchissent que la mer Rouge. Vous savez que Paul dit dans les Corinthiens aussi que le passage de la mer Rouge était un symbole du baptême. Mais le baptême dans l'image de la mer Rouge, c'est un baptême de délivrance du péché, un baptême de délivrance du monde. Mais il y a aussi, dans le baptême en Jésus-Christ, l'idée du baptême dans le Jourdain, qui, lui, est un baptême d'engagement, un baptême de rentrer dans les plans de Dieu pour notre vie. Et c'est pour ça que je dis, connaissez-vous les deux aspects de notre baptême en Jésus ? Non seulement le baptême dans le type de la mer Rouge, mais aussi dans celui du Jourdain. Attention, pour ce qui nous concerne, il ne s'agit nullement de baptiser deux fois une même personne. On ne va pas le baptiser une première fois d'un baptême de délivrance et une deuxième fois d'un baptême d'engagement. Mais il s'agit de vivre par la foi ces deux dimensions du baptême. Dans tous les cas, si nous voulons rentrer dans les promesses de Dieu pour notre vie, nous ne pourrons faire l'économie du baptême selon le Jourdain. Et par cela même, d'expérimenter une œuvre réelle de circoncision de notre vie. Sitôt qu'ils ont franchi le Jourdain, Dieu exige la circoncision. Et cette circoncision signifie pour nous retrancher, couper, jeter au loin de nos vies tout ce qui se tiendrait entre nous et une totale soumission à Dieu. Alors évidemment, on parle de circoncision spirituelle, elle n'a pas été faite par la main de l'homme. Et nous allons dire que c'est la manifestation visible d'une œuvre intérieure de la foi. La parole de Dieu qui agit en nous, nous ne prenons pas des couteaux de pierre, mais la parole de Dieu est plus tranchante et pénétrante que n'importe quel couteau de pierre. Mais malgré tout, la circoncision de Jésus-Christ est une coupure. Avez-vous été coupé par le Seigneur ? Dieu veut nous couper. Dieu veut retrancher des choses en nous. Le chrétien qui foule la terre de Canaan est un chrétien circoncis au plus profond de son être. Je peux prendre une autre image. Jacob ne passera la rivière et ne marchera sur la terre de Canaan. Lui n'a pas été circoncis à ce moment-là, mais il a reçu un bon coup dans le côté. Et quelque part, le Seigneur a retranché quelque chose de lui à ce moment-là. Et comme il s'agit d'une coupure, d'un retranchement, ce n'est pas un acte facile. La circoncision, le dépouillement du corps, de la chair, de cette vie passée, c'est à la fois moralement, physiquement et spirituellement éprouvant. Je ne veux plus traîner cette vie passée. Seigneur, opère-moi. Opère-moi. Ce n'est pas un acte neutre que la circoncision de Christ. Oh, c'est spirituel. Des fois, c'est tellement spirituel qu'on a du mal à le voir. Mais c'est spirituel. Ah oui. Non, ce n'est pas un acte neutre. La circoncision en Christ entraîne de véritables blessures desquelles nous devons guérir. Il y a des coupures par rapport au passé. Et ça nous expose aussi à des situations bien difficiles. En termes simples, la circoncision en Christ représente le passage d'une vie autrefois dominée par la chair, par les désirs, les passions, le monde, à une vie conduite par le Saint-Esprit. Et nul ne peut entrer dans la terre promise s'il n'est conduit par l'Esprit de Dieu, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui héritent du royaume de Dieu. La circoncision représente donc en Jésus-Christ le fait d'être délivré de soi, de rompre avec les habitudes et les attitudes charnelles et d'être conduit par le Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'économie de cela. Dieu n'ouvrira jamais les portes de Jéricho, ne fera jamais tomber les murailles de Jéricho si d'abord nous ne sommes pas passés par Gilgal. Je voudrais m'arrêter sur le verset 8, regardez-le. Il est question là de l'achèvement de la circoncision et un temps où ils sont restés à leur place à Gilgal. Donc Israël avait établi son camp à Gilgal, dans les plaines occidentales du Jourdain, pas trop loin de Jéricho, et donc à portée d'une attaque des armées cananéennes. La situation n'est-elle pas étonnante? Avant d'envoyer ses troupes à l'assaut, le Seigneur leur infligeait délibérément une blessure douloureuse. C'est quand même quelque chose d'étonnant, non? Celui qui va se présenter comme le chef des armées demande que ses soldats soient blessés dans leur corps. Et d'être dans une situation d'affaiblissement. Et donc l'observation de la circoncision dans ces conditions exigea d'Israël une grande démonstration de foi et d'obéissance. Parce que jusqu'à ce qu'ils aient guéri et recouvré leurs forces, ils étaient très affaiblis. Et ils devenaient des cibles faciles. Vous vous rappellerez peut-être l'histoire de la fille de Jacob, Dina, et de ses deux frangins, Simon et Lévi, qui, malins, ont dit « On te donnera notre sœur Dina qu'à condition que vous soyez circoncis. » Le brave prince l'accepte, et tous les autres, parce qu'ils l'aiment bien, l'acceptent aussi, ils sont tous circoncis, et Simon et Lévi en profitent pour leur tomber dessus et les liquider parce qu'ils étaient tellement malades, tellement souffrants qu'ils ne pouvaient rien faire. Donc l'armée d'Israël s'est exposée. Dieu a délibérément exposé Israël, l'a mis dans une situation de faiblesse. Et à ce moment-là, alors qu'ils étaient une cible facile, Israël devait donc placer sa foi en Dieu qui les protégerait durant les jours de faiblesse. Certainement que lorsque nous allons vouloir vivre pour notre vie, pour l'Église, cette aventure de la foi, nous allons nous retrouver dans des situations exposées, des situations de faiblesse. Dieu va même permettre que nous soyons affaiblis pour nous faire comprendre certaines choses, que les batailles ne sont jamais remportées par notre force ou par une meilleure stratégie, mais par la foi en Dieu. Ce qui veut dire que, tout comme ces hommes d'Israël, nous pouvons et nous pourrons nous retrouver dans des temps où, alors que nous venons de vivre une grande victoire, nous avons franchi un Jourdain pour éviter de peut-être nous enorgueillir ou d'avoir les chevilles qui gonflent, c'est pour ça qu'il faudra peut-être enlever les chaussures. Le Seigneur veut que nous passions par un test de vulnérabilité, être vulnérable, afin que nous rappelions toujours que la force est en Dieu et que Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Qu'il prend soin toujours de ses enfants, mais qu'il exige une obéissance et une totale confiance en lui. La circoncision est donc intervenue après le Jourdain, mais avant la conquête de Jéricho, dans un temps de faiblesse. Il venait juste de prendre pied en Canaan. Vous imaginez, on a tous revu les films du D-Day au mois de juin dernier. Et si le général Eisenhower, le 7 juin, avait dit à ses soldats « Stop ! On arrête tout ! On fait un jour de jeûne et prière, de consécration et de circoncision !» Qu'est-ce qui lui prend à Ike? n'y a qu'un général qui, comme Dieu qui peut demander ça. Parce que Dieu voit beaucoup plus loin qu'Eisenhower. Verset 9. C'est là l'aboutissement de tout ce premier tableau. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et c'est ça que Dieu voulait. À cause de cette faiblesse, de cette blessure, mais aussi de cette foi et de cette obéissance que Josué et Israël manifestèrent, Dieu proclama une grande victoire pour Israël. Il leur disait, maintenant, 40 années après, l'opprobre de l'Égypte a été roulé. Il ne l'a pas dit ça lorsqu'ils franchirent la mer Rouge et que Myriam était en train de chanter et avec les tambourins, de danser avec le peuple. C'est maintenant qu'il le dit. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il disait à Israël que dorénavant, Israël ne marcherait plus dans les défaites et l'esclavage du passé, mais dans les victoires de demain, alors qu'il fourrait la terre de Canaan. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ pour votre salut, du point de vue de Dieu, votre passé n'est plus un problème d'actualité. Pour Dieu, parce que vous avez cru en Jésus-Christ, l'opprobre de votre vieille vie a été ôté pour toujours. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. L'Épître aux Hébreux nous le dit. Mais qu'en est-il pour nous? Pour fouler la terre de Canaan, la terre de la promesse, nous devons être libres. Or, trop de chrétiens vivent avec l'opprobre de l'Égypte dans leur vie. Ils vivent en portant encore, en traînant avec eux, le souvenir de l'Égypte, les souffrances des temps passés, les addictions, l'iniquité qui était là. Et cette Égypte est toujours dans le présent, dans leurs pensées. Mais si ce n'était que dans leurs pensées. Parce que des fois, l'Égypte est encore présente dans leurs habitudes, présente encore dans leur maison. L'opprobre est toujours là. Et ils ne sont pas véritablement libres. Alors nous redisons que si nous avons confessé nos péchés et si nous nous sommes repentis, tout ceci n'existe plus aux yeux de Dieu. Et la volonté de Dieu est de nous faire vivre maintenant cette victoire. Mais nous ne marcherons jamais dans cette victoire tant que l'opprobre de l'Égypte n'aura pas été roulé dans nos têtes et dans nos vies. Et ça nécessite pour beaucoup cette opération douloureuse de la circoncision spirituelle. Romains chapitre 7, souvent j'ai prêché sur ça. Seigneur, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du passé? Qui me délivrera du souvenir de l'Égypte? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Le Seigneur est celui qui vient couper le corps de cette mort. Il vient retrancher ce qui est mort de nos vies pour que nous soyons libres. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Et si ce soir le Seigneur roulait l'opprobre de l'Égypte de dessus ta vie, pour qu'enfin tu sois libre. Oh, tu peux faire, et c'est, vous savez, c'est pas à force de déclaration, non. Je crois que, comme je l'ai déjà enseigné, le moment vient. C'est ce que Paul nous retranscrit là. Comme un homme me le disait aujourd'hui, ma vie autrefois, c'était l'enfer de l'homosexualité. Il m'a dit, j'ai eu tant d'amants, je ne peux même pas vous dire le nombre tellement c'est effrayant. Et il m'a dit, j'ai commencé à découvrir l'Évangile, mais c'était dur au début. Et un jour, dans une réunion, j'ai dit, Seigneur, je vais mourir. Fais-moi vivre autre chose. Je vais mourir, Seigneur, fais-moi vivre autre chose. C'est un cri qui montait de son cœur. Et il me disait, une semaine plus tard, il me dit, ça a été la façon de Dieu. Il me dit, Dieu m'a donné. C'était la première fois de ma vie, le désir d'une femme. Parce qu'à un moment, un cri est venu de son être tout entier. Et c'est ce que Paul dit, mais qui me délivrera du corps de cette mort? Et quand on veut rompre avec cela, Dieu est celui qui intervient d'une manière glorieuse. Versets 10 et 12, c'est le troisième tableau. C'est un tableau... C'est bien, après la colline d'Aralot et le temps douloureux, vient le temps de la fête, la célébration de la Pâque. C'est ce que nous rapporte ce troisième tableau. Cette Pâque-là, c'est la troisième mentionnée après celle de l'Égypte, la première, et celle qu'Israël a fêtée avec Moïse dans le Sinaï un an après sa sortie de l'Égypte. Est-ce qu'ils ont célébré d'autres Pâques dans le désert pendant les 40 ans? C'est difficile à dire. Très difficile. Certains en doutent même parce que, vu que la nouvelle génération n'avait pas été circoncise, il est possible qu'ils n'aient pas célébré de nouvelle Pâque puisqu'il fallait être circoncis pour participer à la Pâque. Mais maintenant que l'Alliance était renouvelée et qu'ils se trouvaient dans les plaines du Jourdain justement au temps de la Pâque, Dieu les invitait de nouveau à fêter la Pâque. Ça signifiait deux choses. Cette Pâque signifiait deux choses. La première, Israël devait se rappeler la fidélité de Dieu lorsqu'il les fit sortir d'Égypte et les accompagna pendant 40 ans dans le désert. Israël devait se souvenir ça. La Pâque, c'est avant tout un souvenir. Souviens-toi, le Deutéronome le dit souvent. Mais il devait regarder aussi aux promesses d'une terre nouvelle. Celle que Dieu ouvrait devant eux maintenant, une terre d'abondance, une terre de blé, d'orge, de figuier, de miel, d'olivier, Deutéronome 8, versets 8 et 9. Et cette terre d'abondance évoque la vie d'abondance que notre bon berger Jean 10 veut nous offrir. Il y avait donc à la fois un souvenir, mais il y avait aussi une annonce prophétique. En mangeant ce jour-là pour la première fois des provisions de Canaan, des pains sans levain, du grain rôti réalisé à partir du blé du pays, Israël annonçait ce dont ils allaient bientôt se nourrir. Après la circoncision venait la Pâque, comme pour nous, après le baptême vient la scène. Et la Sainte Cène est d'abord un repas de souvenir, bien sûr. Nous faisons ceci en mémoire de Jésus, de son sacrifice à la croix, de sa fidélité. Mais c'est aussi un repas par lequel nous rappelons les promesses de Dieu, celles de la vie éternelle. Et un jour, nous mangerons à la table du Seigneur. Mais par la foi, en prenant le repas du Seigneur, mais chaque jour en me nourrissant de sa parole, et en buvant au rocher du Saint-Esprit, déjà, je veux célébrer les promesses de Dieu pour cette vie et pour l'Église de Jésus-Christ. Ils fêtèrent la Pâque, mais c'est aussi le dernier jour où ils allèrent collecter la manne. Pendant 40 ans, chaque jour, sauf le sabbat, Dieu avait pourvu aux besoins d'Israël. Et vous savez que chaque matin, il y avait ces petites graines blanches, ce pain descendu du ciel, qu'ils allaient chercher. Elle avait un goût de miel. Et quelqu'un me disait, elle avait le goût de miel, mais ce n'était pas encore le gâteau de miel que Dieu avait promis à Israël. Celui-là, il ne pourrait le manger que dans la terre de Canaan. Mais c'était un témoignage de la fidélité de Dieu. Et tous les jours, ils avaient ce gâteau. Mes frères et sœurs, que de fois dans l'attente de Canaan, dans l'attente de la promesse. Dieu nous a donné, Dieu m'a donné sa manne. Ah, quel goût! Nous avons goûté aux prémices du royaume de Dieu. Sa parole, sa présence, ses encouragements, ses dons, ses bénédictions. Mais tout ça, ce n'est rien par rapport au jour où nous mangerons les gâteaux de miel. Mais pendant tous les jours de notre marche dans le désert, nous avons la possibilité chaque matin d'aller chercher la manne et ce goût de la présence de Dieu nous annonce ce que nous mangerons, non seulement dans les cieux, mais lorsque nous rentrerons pleinement dans l'héritage de ce que Christ a promis pour nous. Maintenant que le peuple était rentré en Canaan, la manne s'arrêtait. Ils étaient sortis du désert et Israël allait dorénavant manger les récoltes de la terre promise. Dieu changeait sa façon de subvenir aux besoins du peuple. Mais Dieu pourvoirait toujours aux besoins du peuple. C'est ce que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Ça s'appelle, encore une fois, la codépendance. C'est vrai qu'au temps de la manne, Dieu donnait tout, le peuple n'avait qu'à sortir. Hop, la manne était là, ils remplissaient leur homer et ils en avaient pour la journée. Mais maintenant qu'ils étaient en Canaan, ils devaient prendre les pioches, les pelles, etc. Et ils devaient aller retourner la terre, ils devaient semer, ils devaient attendre, ils récolteraient, ils mangeraient, mais c'est Dieu qui ferait croître. Et je vais arriver maintenant au dernier tableau, de versets 13 à 15. Et donc nous recentrons sur Josué et la rencontre qu'il va faire. Le ministère de Josué fut un ministère de combat, de victoire et de conquête de la terre promise. Josué avait déjà eu quelques expériences personnelles avec Dieu, que ce soit à travers Moïse, puisqu'il l'avait accompagné sur la montagne. Vous savez aussi que Josué avait l'habitude de se tenir dans la tente où Moïse priait avec Dieu. Mais ce fut à Gilgal que le Seigneur se révéla particulièrement dans sa vie, dans la vie et le ministère de Josué sous le nom du chef de l'armée de l'Éternel. La plupart des spécialistes du texte disent qu'il ne faut pas y voir simplement une apparition angélique, mais une véritable christophanie. C'est-à-dire une apparition de Christ. C'est notre Seigneur qui apparaît là. Avant son incarnation, le Fils de Dieu apparaît ce jour-là, sous cette forme corporelle, à Josué. Et cette rencontre extraordinaire va amener à Josué à comprendre ce point. C'est lui qui est au contrôle. Lui qui est au contrôle des manettes. La première chose que je rappelle, puisque ça va faire lien avec ce que je disais avant, c'est ce mot. Il est petit, attention, mais tellement important. J'arrive maintenant. Ça, c'est le timing de Dieu. J'arrive maintenant, après que vous ayez franchi le Jourdain, et non pas avant. Le chef de l'armée de l'Éternel n'est donc pas apparu dans le désert. Il est apparu en Canaan. Il apparaît après les jours de circoncision et de la fête de Pâques, après qu'Israël ait renouvelé et célébré à travers la Pâque son alliance avec Dieu. Il y a donc un timing de Dieu. De cette rencontre, Josué a appris deux choses importantes. La première, c'est qu'il ne devait avoir peur de rien. Il est impressionnant celui qui vient à lui. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et en plus, il a une épée nue à la main. J'aimerais voir le Seigneur avec son épée à la main. Ça doit être quelque chose d'impressionnant, n'est-ce pas? Voir le chef de l'armée de l'Éternel qui vient avec son épée à la main. Alors oui, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Voilà mon héros qui marche à notre tête et qui nous dit, voilà, tu me connais, tu sais ce que j'ai déjà accompli. Mais comprends que tu ne peux rien faire par toi-même. Mais sache ceci en quelque sorte, je suis avec toi et je ne te quitterai pas. J'arrive maintenant. Maintenant que vous avez fait la volonté de Dieu, vous avez traversé ce Jourdain, vous avez mouillé vos pieds, que vous avez renouvelé votre alliance avec le Seigneur, que vous, l'opprobre de l'Égypte a été roulé, que le monde a été mis dehors, que vous avez retranché de vos vies le monde, alors je viens, dit le Seigneur. Juste avant, Josué lui pose la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? J'aime bien la réponse. On a une question ouverte. Et la réponse qui vient, ce n'est pas une réponse qui est adaptée à la question. Parce que le type de question que Josué lui adresse ne devrait pas être répondu par un oui ou par un non. Mais le chef des armées de l'Éternel dit non. Autrement dit, c'est comme s'il rejetait les deux propositions que Josué vient de lui dire. Je ne suis ni avec les armées de Jéricho, mais je ne suis pas avec toi, Josué. Parce que je suis le chef des armées de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Seigneur ne vient pas se ranger aux côtés de Josué. Il ne vient pas se mettre dans les plans de Josué. Il ne vient pas lui prêter assistance. Ce n'est pas la troupe de renfort. Ce n'est pas l'expert au combat. Mais le Seigneur est en train de lui dire, je viens prendre la tête des armées. Je suis le chef. Je pense que ce fut un grand soulagement quand même pour Josué. Et ce jour-là, il acceptait d'être le chef en second. Sans trop de difficultés. C'est toujours bon d'avoir quelqu'un au-dessus de nous, de nos têtes, pour prendre des décisions, vous savez. Hein. Mais alors en plus, quand c'est le Seigneur qui marche à la tête de l'armée, pas de problème, on y va, tu as sorti ton épée, on te suit. Et c'est toujours un soulagement pour vous et pour moi de savoir que Christ n'est pas simplement à nos côtés, mais qu'il est notre chef, qu'il marche à la tête. Nous avons nos plans, ah, nous sommes des hommes, vous faites des plans, je fais des plans. On est comme ça. Mais ce que nous dit aussi cette rencontre, c'est que nous n'avons pas à nous soucier de stratégie, de manière d'engager le combat, c'est la responsabilité de Jésus. D'ailleurs, j'imagine que notre brave Josué avait pensé à peut-être à plein de stratégies, mais certainement pas à celle que le Seigneur allait employer pour prendre la ville de Jéricho. Parce qu'alors là, il aurait vraiment fallu, dans la tête de Josué, une imagination très fertile. Parce qu'il n'y a que Dieu pour inventer un truc comme ça. Vous faites le tour une fois par jour pendant 6 jours, et le dernier jour, vous faites 7 fois le tour. Et vous verrez, vous allez sonner les trompettes, ça va tout s'effondrer. Aucun général en chef, aucun maréchal n'aurait jamais pensé à cette histoire. Il n'y avait que Dieu pour imaginer un truc pareil. Notre part, comme celle de Josué, c'est de nous soumettre et de croire qu'il contrôle les choses. Alors qu'est-ce que fit Josué ? Josué se prosterna, face contre terre. Ainsi donc, avant d'engager le combat, avant d'obtenir la victoire, avant d'écraser nos ennemis, nous devons d'abord nous prosterner devant Jésus et l'adorer. La victoire naît dans l'adoration. En quelque sorte, avant de vaincre, nous devons avoir été vaincus. Encore une fois, c'est comme Jacob. Hein. Il fut déclaré vainqueur après avoir été blessé par le Seigneur. Avant de conquérir, nous devons avoir été conquis par Christ. Alors, Josué se prosterna et il s'adressa au Seigneur. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Ta parole, Seigneur. Qu'attends-tu de moi ? Un peu comme Saul de Tarse. Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? C'est là que le Seigneur lui répond, déchausse-toi. Encore une fois, le drôle de réponse. Non pas, fais lever tes armées, envoie telle tribu devant, la tribu de Juda, et puis non, déchausse-toi. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. J'imagine que ça a dû quand même faire tilt dans la tête de Josué, puisqu'il avait tellement passé de temps auprès de Moïse que Moïse lui avait certainement rapporté plus d'une fois ce moment où, là, au fond du désert du Sinaï, sur la montagne de Reb, alors que le buisson était embrasé par la flamme, le Seigneur l'avait appelé aussi à enlever ses souliers. Je pense que le cœur de Josué a dû battre à ce moment-là. Tout d'abord, pour lui, c'était évidemment une attitude de respect, de soumission, de se mettre comme ça dans cette attitude d'humilité, enlever ses chaussures, ses souliers, ses sandales. C'est là se tenir au pied du maître. Et en même temps, je me dis, comme Moïse, Seigneur, quand Moïse a fait ça, tu as ouvert tes grâces et tes bénédictions. Je pense que Josué devait quand même se dire que quelque chose va se passer. C'est certain que nous ne pourrons expérimenter sa puissance, la puissance du Seigneur, sa victoire dans le combat que si d'abord nous enlevons nos sandales et nous soumettons à son autorité. Enlever nos sandales, c'était justement un texte d'Ésaïe, qu'on en parlait tout à l'heure, qui dit bien, garde ton pied le jour du sabbat, ne fais pas ce que tu veux. Et quand on enlève nos sandales, nos pieds, on dit, c'est j'arrête de bouger, je ne marche plus. J'arrête d'aller de droite, de gauche, et je me mets devant toi, Seigneur. J'enlève mes chaussures. Et c'est alors, et alors seulement, que Dieu nous permettra d'aller plus loin. Nous permettra d'aller vers notre Jéricho. Nous permettra ensuite de fouler la terre de Canaan et de poser nos pieds sur la tête de nos ennemis. Seul un peuple consacré à Dieu montera à Jéricho. Seul un peuple déchaussé devant Dieu posera son pied sur le cou de ses ennemis. Vaincu. Fais de nous, Seigneur, un peuple déchaussé. En Israël, des fois, ce n'était pas une bonne réputation d'être appelé le déchaussé. Au mois d'octobre, Didier nous conduira dans un mois de prière. Je pense que ce sera un mois pendant lequel nous allons nous déchausser devant le Seigneur. En disant, dans ce mois, Seigneur, nous mettons nos chaussures de côté pour nous tenir simplement dans ta sainte présence. Après, nous allons devoir, c'est vrai, remettre nos sandales pour ne pas monter au combat. Le zèle de l'Évangile, Éphésiens 6. Mais d'abord, nous nous déchaussons dans ta présence, mon Dieu. Parle-nous. Que ce mois d'octobre soit un mois dans lequel le Seigneur nous parle, pendant lequel le Seigneur roule l'opprobre de l'Égypte. Un temps de prière. Nous avons besoin de passer par là, si nous voulons avancer plus loin dans les voies du Seigneur. Je vous dis ça déjà pour préparer vos cœurs pour ce mois d'octobre. Une semaine de prière, des temps de prière, des nuits de prière, nous aurons besoin de nous tenir sur la terre sainte de notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous avançons dans ces passages du livre de Josué qui s'ouvrent au fur et à mesure devant nous. Nous voyons comment tu as conduit les choses. Seigneur, parfois nous voudrions directement aller à Jéricho, mais Jéricho n'est intervenu qu'après bien des situations particulières. Et Seigneur, ce que je demande, c'est que tu puisses nous amener les uns les autres, et l'Église, et nos vies, et nos ministères, et nos familles, de progrès en progrès. Je prie pour que ce que nous avons partagé ce soir devienne la réalité pour plusieurs parmi nous. Je prie, Seigneur, pour que l'opprobre de l'Égypte soit roulée de la vie de plusieurs. Car je sais que, Seigneur, c'est un fardeau, c'est une tristesse que tant de frères et de sœurs, Seigneur, dans les églises traînent. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'esprit de l'Égypte est toujours sur eux. Seigneur, circoncis-nous. Et nous te disons, mon Dieu, nous voulons devant toi nous déchausser. Nous ne savons plus où aller, nous ne savons pas comment prendre la ville. Alors nous nous déchaussons devant toi. C'est toi le Maître et le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.